Sénégalais,
mes chers compatriotes,
chers vieux Sénégalais.
Toute ma vie, j'ai été animé par la nécessité de construire, de consolider l'état de droit.
Sénégal, Sénégal, votre émission qui vous parle de tout.
Il y a des cimetières, des inconnus, des familles qui sont obligées de faire des deuils sans corps.
Le cancer du col est le premier cancer au Sénégal.
Pas de sujet tabou, tout tourne autour de vous. Sénégal, Sénégal, sur la radio de tout le Sénégal et sur toutes nos plateformes digitales.
Sénégal, rec, rec.
Bienvenue à tous, très heureux de vous retrouver dans votre émission Sénégal Sounougal spéciale art et culture. Au menu, le report de la Biennale de Dakar. Pour nous en parler, notre invité est le président des artistes plasticiens du village des arts de Dakar, Mouhamadou Zouloumbeye. Dans cette émission également, Adia Fatou Sarr va s'intéresser au festival Film Femmes Afrique. Et enfin, au rythme des tambours et percussions, Youssouf Konté va partager avec nous les temps forts de la célébration de la Journée internationale de la danse.
Monsieur Zouloumbeye, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous sommes ici, au village des Arts, un endroit où convergent les différentes inspirations qui se sont entre guillemets matérialisées en œuvres d'art. Là, je suis dans votre atelier et on va directement aller dans le vif du sujet.
Allons-y.
La Biennale.
Ouais.
La Biennale, c'est l'actualité présentement.
Tout à fait.
Et elle a été reportée. Elle est considérée par certains artistes comme étant leur coupe d'Afrique des Nations, voire leur coupe du monde.
On peut l'appeler comme ça, je suis parfaitement d'accord. Mais moi, je dirais que c'est l'événement dans l'agenda culturel africain le plus important. La Biennale de Dakar, que le monde entier nous envie et qui se situe à la troisième, d'aucuns disent à la troisième, d'autres à la quatrième place des biennales du monde. Donc c'est un événement presque mondial, bien que appelé Biennale de l'art contemporain africain, mais c'est le monde entier qui s'y retrouve. C'est vrai, la sélection, quand on n'est pas africain locaux ou de la diaspora, on ne peut pas y participer. Ça, c'est une vieille histoire. Ça a débuté en 96 et à cette époque, j'ai fait une exposition qui s'appelait Amour interdit. C'était vraiment pour boycotter la Biennale parce que je me suis dit que les Africains, les artistes africains n'ont pas d'infrastructure culturelle. Nous n'avons pas de musée, nous n'avons pas ce qu'on peut appeler réellement, classiquement, galerie. Donc, limiter cette biennale aux artistes africains serait une manière de la ghettoiser alors que nous devions nous ouvrir au monde. Parce que le monde nous attend, le monde nous regarde, le monde nous observe. Et je pense que nous avons quelque chose à proposer à ce monde. Parce que notre génie créatif, notre imaginaire de négro-africain est plein de choses. Et pour le démontrer, je vais parler de la rencontre de Picasso avec la statuaire négro-africaine. C'est de là où est né le tableau, par exemple, Les Demoiselles d'Avignon. Et cette rencontre a bouleversé, au début du 19e siècle, le regard que portait le monde sur les arts. Et donc, l'Afrique a toujours porté le monde. Et cette histoire de la rencontre entre Picasso et la statue négro-africaine n'est qu'une nouvelle manche de ce que l'Afrique a apporté à l'humanité et qu'elle doit encore continuer à apporter au monde.
Vous l'aviez dit tantôt, la Biennale, c'est un rendez-vous international.
Tout à fait.
Et il ne fallait pas rater le coche.
Mais il ne fallait pas rater le coche, mais l'histoire a fait que, malheureusement, ça va être la deuxième fois que l'organisation de cette Biennale va rencontrer des problèmes. La première fois, c'était vraiment pas la faute d'organisateurs ou des artistes ou de l'État ou de qui que ce soit, c'est parce que le Covid-19 était là. Donc, on a dû annuler l'édition de 2020. Mais cette édition, le report, heureusement qu'il n'y a pas annulation, le report a dû à certaines imperfections organisationnelles, à un certain laxisme, on peut le dire comme ça.
Et aujourd'hui, concrètement, le financement, entre guillemets, c'est le nerf de la guerre concernant l'organisation, apparemment.
Tout à fait. C'est un des prétextes qu'on nous a donné, mais qui n'est pas officiel. Donc, je vais prendre cette information avec des pincettes, je vais l'appeler même la rumeur. Parce qu'en dehors de ce prétexte qui est le manque de financement, ce à quoi je ne crois pas du tout, parce que cette biennale s'organise en 2 années. Donc, prétexté d'un manque de financement, j'en douterai. Est-ce que ce n'est pas une patate chaude qu'on a laissée aux nouveaux arrivants? C'est pour cela que je ne les condamne pas. Ils ont trouvé une situation désastreuse et qui a fait qu'ils ont pris le pari de reculer un peu pour mieux sauter, de voir où sont les problèmes. Donc, n'allons pas très vite en besogne. Ne disons pas qu'il y a un manque de moyens financiers ou de sabotage, mais les esprits, forcément, vont chercher les prétextes les plus proches de nous. Mais est-ce que la vérité ou pas, c'est au nouveau ministre de la Culture de nous édifier sur cette situation. Pourquoi ce report de la Biennale?
Habituellement, l'organisation d'un tel événement phare, d'un tel rendez-vous artistique, comment ça se passe en fait?
Il y a d'abord, au niveau organisationnel, au niveau artistique, un appel à candidature ouvert à tous les artistes africains et à ceux de la diaspora. Et donc, ceux qui veulent candidater s'inscrivent et là, ils passent devant un jury qui fait la sélection. Et c'est à partir de cette sélection que les artistes sont choisis et ces artistes choisis sont invités, pris en charge par la Biennale elle-même. Et c'est comme ça qu'il y a l'exposition IN. Mais parallèlement à cette exposition IN, il y a que les artistes qui n'ont pas candidaté, eux, organise ce qu'on appelle des off. C'est chaque année des centaines de off. Et le off, ce sont les artistes qui n'ont pas voulu participer ou qui ne sont pas sélectionnés, qui se prennent en charge et organisent des expositions. Et ce sont ces événements qui tournent autour du IN qu'on appelle le off. Et vous avez devant vous le père du off de la Biennale de Dakar, Zulumbaye, parce qu'en 1996, quand on a africanisé d'ailleurs, pour le dire très clairement, la Biennale, je me suis dit que c'était une chose pas bien, qu'il ne fallait pas ghettoiser la Biennale. Et j'ai organisé une exposition parallèle au IN en invitant 14 nationalités et ça a été un déclic, ce qui a donné aujourd'hui le off qui, selon certains, est beaucoup plus intéressant que le IN parce qu'il y a plus de propositions, plus d'expositions, plus de manifestations. Voilà ce qu'on appelle le off et c'est ça qui le distingue du IN, qui est le côté officiel de la Biennale.
Il y a eu un chamboulement dans l'organisation. Conséquence, on a reporté la Biennale au 7 novembre. Aujourd'hui, les défis de l'heure pour les organisateurs, c'est quoi exactement?
Il y a eu des manquements. Il faut peut-être soigner un peu ces manquements. Reprendre l'organisation de la Biennale, je pense que les techniciens à qui on a confié l'organisation de la Biennale peuvent en parler mieux que moi. Ils savent comment retrousser les manches et reprendre une bonne organisation. Et c'est là où je suis d'accord avec ce report, parce qu'on allait vers une biennale au rabais. Et la crédibilité et l'honorabilité de cette biennale allait en prendre un sacré coup. Le bruit courait qu'il y aurait une annulation ou un report. Et finalement, c'est à 3 semaines exactement de la date prévue pour son ouverture qu'on nous a annoncé le report de la Biennale. In fine, pour moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est beaucoup plus prudent parce que cette Biennale a une aura mondiale. Il ne fallait pas faire n'importe quoi. Et nous sommes aujourd'hui dans un régime qui nous parle d'africanité, d'africanisme. Donc nous ne pouvons pas, en tant que fer de lance aujourd'hui en Afrique de cet esprit, faire quelque chose pour l'Afrique qui serait mal fait. Nous n'avons pas de droit et je pense que ça aurait été un échec, une défaite. Heureusement que les nouveaux gérants de la culture en ont pris conscience et ont pris la décision de repousser cette biennale. Je pense que c'est une bonne chose.
Certaines expressions artistiques, dont l'art plastique, occupent une place très très importante dans cette biennale-là.
Moi, en 2008, je crois, j'avais fait un texte sur l'intitulé de la biennale. On nous dit dans l'intitulé que c'est la biennale de l'art africain contemporain. Mais ce n'est pas du tout ce que la Biennale présente. La Biennale présente l'art contemporain africain. Je pense qu'il y a une nuance intéressante sur laquelle...
Je suis un peu perdu.
Les organisateurs... Parce que l'art africain contemporain, c'est l'art qui se fait en Afrique, qui a toujours été fait en Afrique et qui arrive à cet stade de la modernité qu'on appelle contemporain. Donc, cet art africain contemporain, c'est pas ce qu'on nous propose. Ce qu'on nous propose, c'est l'art contemporain africain. Ça veut dire l'art qui se fait aujourd'hui en Afrique. Et je pense que le problème, c'est que les intellectuels africains, les artistes africains ne sont pas impliqués dans l'organisation de cette biennale comme il le fallait. Sinon, eux auraient déjà relevé cette nuance importante parce que nous proposons des choses au monde. Donc, il faut que nos propositions aussi soient claires. C'est pour ça que je parle toujours d'un contenu qu'on doit donner à cette biennale. Cette biennale n'a jamais eu de contenu, alors que l'Afrique a quelque chose à dire.
Par contenu, vous entendez ?
Mais contenu, c'est-à-dire qu'est-ce que cette biennale représente par rapport aux autres biennales du monde ? Qu'est-ce que cette biennale dite africaine ? Qu'est-ce que l'Afrique, à travers cette biennale, propose au monde ? Parce que quand on va en Chine ou ailleurs, en Asie ou ailleurs, il y a des références culturelles. Ce sont ces différences qui enrichissent la culture universelle. L'Afrique a un génie qui peut, comme elle l'a toujours fait, montrer que les artistes ont un imaginaire créatif qu'ils peuvent proposer au monde et non rester à copier, à singer ce qui se fait ailleurs, à New York ou à Paris. Et donc, qu'est-ce que les artistes africains peuvent créer qui serait pas du réchauffé, sortir des sentiers battus et se dire, voilà, nous, Africains, voilà ce que nous proposons. Parce que l'universalité, c'est ça. C'est que chacun vienne à ce concert avec sa spécificité, ses particularités, ses caractéristiques.
Si je vous comprends bien, il y a une créativité propre à l'Afrique.
Tout à fait. Et c'est cette créativité qu'il faut mettre en exergue. Les hommes de culture africaine doivent essayer de déconstruire ces idées qu'on leur a ingurgitées dans la tête. Ce colonialisme culturel que nous subissons, que nous vivons depuis des siècles, nous devons aujourd'hui essayer de déconstruire cette situation, essayer de redéfinir même le mot art. L'art pour l'Africain, ce n'est pas tout simplement quand je veux parler de tableau, ce n'est pas des images qu'on expose tout simplement sur des murs, dans des salons ou dans des cages de verre, dans ce qu'on appelle des musées. L'art avait un autre sens en Afrique. Il était pour créer, pour procréer, pour anéantir. Comment se fait-il que, par exemple, un homme portait un masque, un autre donnait quelques coups de tambour codifiés, un troisième esquivait quelques pas de danse et il pleuvait. L'art africain avait cette force.
L'authenticité.
Il était chargé de cet esprit. Et je pense que nous devons intégrer cette dimension dans nos pratiques artistiques parce que c'est ça qui fait notre différence. Et cette différence-là, le monde en a besoin aujourd'hui.
Vous êtes optimiste, n'est-il pas trop tard ?
Mais pas du tout. Au contraire, c'est le moment. Qu'est-ce qu'on peut apporter maintenant à cette sécheresse qui sévit sur le monde ? On a oublié nos valeurs fondamentales, ce qui faisait notre humanité. Nous l'avons piétinée, foulée du pied. Aujourd'hui, elle est tellement proche de la machine parce que tout simplement, nous ne faisons plus fonctionner nos neurones humains. Nous suivons tellement la machine que nous sommes déshumanisés.
La Biennale a-t-elle besoin de se réinventer en associant tout le monde, comme vous le suggériez tantôt ?
Il faudrait qu'elle se réinvente. Il faudrait que nous trouvions les moyens intellectuels, les moyens moraux, les moyens humains pour ne pas faire ce que font les autres.
De votre point de vue, cette réinvention-là, comment elle se matérialiserait ?
Par notre génie. Ce n'est pas ce qui nous manque. Seulement, nous nous oublions et nous tournons notre regard vers les autres comme si ce que nous avons est moins important, a moins de valeur que ce que les autres ont. Tahar Ben Jaloun, l'écrivain marocain, dans son livre « Moha le fou, Moha le sage », nous dit « Autrefois, c'était les étrangers qui nous déshabillaient. Aujourd'hui, c'est nous qui ôtons nos haillons et les jetons dans les fosses de la honte. C'est comme si nous avions peur de nous. Quelque chose en nous ne nous plaît pas, nous fait peur, nous fait honte peut-être. » On a l'habitude dans ce pays-là de considérer les artistes comme des rêveurs, mais je pense qu'ils sont très en avance sur vraiment la marche du pays et de notre société, car l'art, c'est un peu le nectar de la culture. Donc cherchons dans notre art quelque chose qui peut nous ramener à nous-mêmes et qu'on reprenne le fil de nos réalités et qu'on arrête de suivre les autres aveuglément, parce que sinon, c'est nous qui en perdons plus que les autres.
Vous avez parfaitement résumé l'esprit de cette fameuse phrase du président poète Léopold Sédar Senghor.
Ah, j'adore Senghor, je pense que je suis...
La culture est au début.
Et à la fin du développement. Que donc, nous ne devons pas nous sous-estimer, parce qu'il nous reste notre humanité que nous pouvons proposer au monde. Et l'Afrique va encore rebondir, insuffler encore une nouvelle fois son âme créatrice. Et le monde attend de nous cette réinvention. Et la Biennale est un des piliers qui peut participer fondamentalement à cette réinvention. La Biennale a été reportée, mais... Toute la biennale n'est pas reportée parce que je vous avais parlé des deux pans de cette biennale, le in et le off. Et comme c'est nous en tant qu'artistes qui organisons les off, certains artistes, parce qu'ils sont déjà très engagés dans leurs préparatifs, ils ont des invités qui ont déjà pris leur billet d'avion, réservé leur hôtel et ils étaient fin prêts. Et ceux-là ne veulent pas tout perdre. Moi, je les encourage. Je les encourage parce que l'art n'a pas à suivre.
L'art a son propre rythme.
L'art a sa vie, sa propre démarche, sa propre philosophie, ses propres réalités. Donc ces artistes qui veulent garder leur off, je suis d'accord avec eux. D'ailleurs, j'en fais partie parce que j'avais 3 expositions auxquelles j'ai participé. L'une, c'est moi qui devais l'organiser, qui devait se passer au Village des Arts. Je devais recevoir 10 artistes de l'île de la Barbade, où je suis allé en janvier pour rencontrer ces artistes, les décideurs culturels, l'État barbadien, parce que j'ai eu même à rencontrer la première ministre de la Barbade, qui faisait de ce projet que des artistes de la Barbade viennent rencontrer des artistes du Village des Arts de Dakar, un projet vraiment auquel elle tenait beaucoup. Et nous avons décidé, de commun accord, de reporter cet événement au 7 novembre. Mais, parallèlement, je fais partie d'un groupe de 5 artistes sénégalais qui rencontrent 5 artistes américains. Vous savez que les États-Unis sont l'un des deux pays invités d'honneur de la Biennale. Et le 16 mai prochain, nous avons tenu à ne pas reporter ni annuler cette exposition et la tenir au musée Bouribana qui se trouve sur la route de l'ancien aéroport. Et là-bas, nous allons tenir notre exposition.
C'est une bonne idée de votre point de vue.
Cette date symbolique du 16 mai qui devait être le jour de l'ouverture de la Biennale et que nous, Américains et Sénégalais, nous nous retrouvons pour de célébrer, je pense que c'est un symbole très fort. Parallèlement aussi, il y a une deuxième exposition à l'hôtel Sahaman où nous recevons 12 artistes nigérians, marocains, guatémaltèques, suédois, et donc nous allons aussi tenir cette exposition. Mais je pense que ça n'aura pas cette ambiance de la Biennale. Mais pour moi, c'est très important et symbolique de marquer cette date. D'ailleurs, j'ai l'idée d'inviter les artistes qui vont venir à ces off, qui vont démarrer le 16 mai au Village des Arts pour créer, faire une grande toile de 5 mètres peut-être. Et ça, j'y invite les artistes sénégalais pour que le 16 mai, qu'on se retrouve tous au Village des Arts, peindre une toile collective qu'on gardera pour l'histoire. Parce que cette date du 16 mai portait quelque chose en nous. Et comme il ne faut pas l'oublier, il faut l'immortaliser,
la marquer d'une pierre blanche.
Et donc nous tenons à inviter les artistes sénégalais et les artistes des autres pays qui seront le 16 mai à Dakar de 10h à 15h de venir participer à la création de cette œuvre collective que nous laisserons pour la postérité.
Pour une bonne organisation de la Biennale, est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la façon dont on la gère? Et en l'occurrence, ce que je veux dire par là, est-ce que l'État doit être au cœur de ce processus-là d'organisation de la Biennale?
Je pense qu'on ne peut pas écarter l'État de l'organisation de cette Biennale. Seulement, il faut trouver les ressources humaines dont c'est le métier. Les artistes africains, il doit avoir des assises de la culture dans ce pays. Et ça permettrait de repenser, de remodeler cette Biennale pour que ça soit vraiment un événement artistique et que ce ne soit pas tout simplement un événement de prestige. Parce que c'est ça. Et j'ai l'habitude de le dire. L'art et l'État n'ont jamais fait bon ménage. Parce que, voilà, c'est quand on interroge la vie des arts par rapport à la vie des pouvoirs politiques, on se rend compte qu'il y a toujours des choses qui ne s'entendent pas, qui ne se marient pas, qui ne vont pas ensemble. Ayons confiance aux artistes et aux intellectuels africains. Confions-leur cette biennale sous forme d'une association ou d'une fondation et que l'État soit là comme fournisseur des moyens financiers, parce que c'est ça son rôle, et laisse l'organisation aux acteurs culturels dont c'est le métier, c'est l'unique préoccupation. Et peut-être on aura là une biennale véritablement artistique, parce qu'ils vont lui donner le contenu qu'il faut. Il faut l'organiser de la meilleure manière qu'il la sente. Et tant que ce n'est pas ça, tant que dans un comité d'orientation ou d'organisation, on a des représentants des ministères, un représentant du ministère du Tourisme, un de l'Éducation nationale, un de la Présidence, un de la Primature. Mais ces gens ne connaissent pas, ne comprennent pas. Quand vous leur parlez art, moi j'ai eu cette expérience quand j'étais membre du comité d'orientation. Dès que je prenais la parole pour parler d'art, les gens se grattaient la tête et se disaient, je les entendais même sous leur silence, il va encore nous parler d'art. Ces gens-là, leur préoccupation, c'est de faire partie des commissions, commission accueil, commission hôtellerie, commission restauration. Ils ne sont là que pour ça, au détriment de l'art et de la biennale. Et ça, il faut y remédier. Et vraiment, c'est un appel que je lance aux décideurs culturels sénégalais pour qu'ils réfléchissent à cette situation, parce que sinon nous sommes en train de mettre des milliards quelque part qu'il ne fallait pas, parce que tout simplement la manière d'utiliser ces fonds ne colle pas avec l'attente qu'ils ont de ce qu'ils veulent.
Si je vous comprends bien, il est plus qu'urgent aujourd'hui d'organiser en quelque sorte les assises de la culture.
Mais tout à fait. Quand on voit par exemple la constitution du nouveau gouvernement, on voit que la culture est avec la jeunesse,
le sport.
Bon, il y a beaucoup de gens qui en ont parlé, il y a beaucoup de propositions, beaucoup de critiques, machin truc. Mais je pense que la culture est tellement importante qu'elle mérite qu'on lui donne un ministère plein. Parce que, quel que soit le développement, s'il n'y a pas un soubassement culturel à ce développement, ce n'est pas un développement. Quand on est autour du bol de Tchéboudienne, il y a toute une culture. Les enfants qui ne doivent pas toucher à la viande ou au poisson ou aux légumes, c'est le papa ou la maman qui doit les servir. La manière de se tenir autour du bol, la manière de manger ce riz ne peut être que culturelle. Quand on met ce Tchéboudienne sur une table avec des fourchettes et des couteaux, ça lui enlève de sa saveur. Donc la culture est au début
et à la
de
fin.
Tout.
En tout cas, merci infiniment de nous avoir accueillis ici au Village des Arts. C'était une discussion très très intéressante. On a beaucoup appris et on espère qu'on aura l'opportunité d'échanger davantage sur ces genres de questions-là qui tournent autour des arts et de la culture. Mille merci à vous, monsieur.
Mais c'est
Zoumbay.
Moi qui vous remercie. Je dois avouer, c'est pas à cause de vos beaux yeux, mais dans l'espace culturel médiatique, aujourd'hui, on rencontre pas beaucoup de gens qui nous parlent de culture, qui nous posent les questions réelles qu'il faut poser. Et ça, je vous en remercie, parce qu'aujourd'hui, vous m'avez fait parler, parce que vous m'avez posé les questions qu'il fallait. Et c'est tout ce que j'attends des médias, parce que c'est un médium par lequel aussi nous faisons passer nos idées, nos réflexions, nos pensées. Et c'est moi qui vous remercie.
Mille merci à vous, en tout cas.
Te dit les thunes, qui dit argent dit dépense, qui dit crédit dit créance, qui dit dette te dit huissier, lui dit assis dans la merde, qui dit amour dit les gosses, dit toujours et dit divorce, qui dit proche te dit deuil car les problèmes ne viennent pas seuls, qui dit crise te dit monde, dit famine dit tiers monde, qui dit fatigue dit réveil, encore sourd de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes, alors on danse. We'll be right back. tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y en a plus,
eh ben y en a encore.
Est-ce la zik ou les problèmes ou bien la musique? Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu ne bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste, alors on chante.
La 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 la. La 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 la.
Alors on chante.
La 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 la.
À l'instant, alors on danse de Stromae. Danseront jour, danseur pour toujours, tel est le maître mot des acteurs de cet art qui transcende les frontières et les cultures. Elle est une expression ultime de la liberté et du mouvement, bien plus qu'une simple série de pas, a estimé la directrice du centre régional Blaise Senghor de Dakar, Fatou Sen. Le sanctuaire de la culture Blaise Senghor a été d'ailleurs rythmé ce 29 avril à l'occasion de la journée internationale de la danse par des pas, des mouvements et des expressions corporelles, nous dit Youssouf Konté.
L'universalité de la danse mise en lumière sur les planches du monde entier ce lundi 29 avril 2024. À Dakar, la célébration de cette journée a été une occasion de valoriser cet art expressif. Cette année, les acteurs de la danse se sont donné rendez-vous au centre culturel Blaise Senghor. Fatou Sen en est la directrice.
La danse, expression ultime de la liberté et du mouvement, est bien plus qu'une simple série de pas. C'est un langage universel qui raconte des histoires, exprime des émotions et connecte les êtres humains entre eux. Elle est le reflet de notre humanité, de notre histoire et de nos espoirs. Les institutions culturelles, telles que nos centres culturels régionaux, jouent un rôle crucial dans la promotion de la danse.
Rassemblés autour de leur passion commune, professionnels et amateurs ont souligné l'importance de célébrer cette journée. Son impact va d'ailleurs au-delà de la simple célébration artistique, insiste le secrétaire d'État à la culture, aux industries créatives et au patrimoine historique, Bakary Sarr.
La danse reste une expression partagée par toutes les sociétés humaines dont les traditions lui donnent une grande place. Elle a été hissée au rang d'activité professionnelle par des hommes et des femmes, danseurs et chorégraphes comme vous. C'est cela que la communauté internationale a compris, en mettant en place, dès 1988, au sein de l'UNESCO, l'Institut international du théâtre, la plus grande organisation mondiale pour les arts de la scène.
La célébration de la Journée mondiale de la danse fut également un moment d'échange sur les enjeux, les difficultés et les perspectives pour le développement de cette expression artistique, d'où le plaidoyer de certains acteurs du secteur.
Nous attendons avec impatience la publication des décrets d'application nécessaires à la mise en œuvre de ces lois et aussi du plan stratégique danse.
Bah, il y a plusieurs salles de spectacles, de répétitions, de résidences, et nous, c'est ça qu'on veut carrément ici au Sénégal. Et c'est pour cela que c'est très important en fait, qu'on fasse face à l'autorité et de le dire ça, et de leur donner carrément cette plan-là, et qu'ils essayent aussi de voir comment on peut faire. Parce que si on regarde aujourd'hui, il y a des sous-secteurs ou des secteurs qui sont carrément, aujourd'hui, qui se bénéficient carrément des fonds, par exemple culture urbaine. Donc la danse aussi, nous voulons ça.
Il y a pas mal de jeunes Sénégalais qui veulent épouser cette discipline, mais qui ont du mal à montrer leur savoir-faire par rapport aux difficultés d'avoir des édifices de réceptacles qui pourront leur permettre à pouvoir exploiter ou bien montrer leur talent de danseur. Parce que savoir danser et savoir presser dans une scène est un peu différent. Pratiquement, présentement, beaucoup de compagnies, ce qu'ils font, c'est un peu folklorique. C'est ce qui est notre force, mais il faut savoir l'encadrer.
La structuration du secteur de la danse est un axe majeur dans la politique culturelle du Sénégal, rappelle le secrétaire d'État à la culture.
Ce levier important de la danse mérite donc une attention particulière du point de vue des autorités. Et le ministère, justement, a pris en charge, avec beaucoup d'envergure, le dossier concernant le statut de l'artiste et la copie privée. Le programme que le président Bassirou Diomaye Faye, avec la diligence du Premier ministre Ousmane Sonko, a présenté aux Sénégalais, il y a une forte dimension qui prend en charge la question du patrimoine culturel, matériel et immatériel.
À Blaise Senghor, ce 29 avril, plusieurs événements ont marqué la Journée internationale de la danse. Des activités divertissantes, mais également éducatives, qui ont permis d'exposer au public les divers styles de danse.
Une petite respiration musicale avec cette pépite sonore signée Besso, Retrouvez l'aube. Thank you. Bonne arrivée à Diafa Toussard.
Merci Adramé.
Le 7e art, vous êtes là pour nous en parler. Depuis plusieurs jours à Dakar, les passionnés de cinéma sont aux anges. La capitale sénégalaise accueille le festival Film Femme Afrique.
Adramé, ce festival a démarré vendredi dernier et pendant une semaine de Dakar à Ziguinchor, en passant par Louga, Kaffrine et d'autres régions du pays, le public va pouvoir apprécier près de 70 films sur le thème abordé cette année. Nous vous proposons d'écouter la présidente de l'association promotrice de l'événement, Martine Gaïa.
Pour la 6e édition, nous avons choisi le thème urgence climatique et paix parce que nous pensons que vraiment, avec tous les changements climatiques qu'il y a sur la planète, il est très très urgent de parler du climat et on a voulu mettre urgence climatique pour montrer le caractère absolument urgent de se préoccuper de la sauvegarde de la planète. Nous allons diffuser 70 films. Sur les 70 films, il y a 31 longs métrages, 35 courts métrages et 6 films qui seront particulièrement focus sénégalais. Dans les longs métrages et dans les courts métrages, nous avons 12 films en compétition pour les longs métrages et 10 films en compétition pour les courts métrages.
Adramé, le festival Femmes Afrique, c'est le premier festival cinématographique sénégalais dédié aux femmes. Sur ce rendez-vous du cinéma africain, écoutons Amaël Niaï, coordinatrice du festival.
Nous sélectionnons des films qui racontent ou partagent des histoires de femmes africaines, qu'elles soient en Afrique ou ailleurs, que les films soient réalisés par des femmes ou des hommes, africains ou non. L'idée est d'avoir beaucoup de points de vue différents sur le même sujet, sur le même thème. Évidemment, nous mettons en avant particulièrement les femmes réalisatrices qui sont nos principales invitées à l'international et au Sénégal, mais c'est ouvert à toutes et à tous. À la fin de chaque projection, il y a un débat avec le public et une personne de l'équipe du film ou une personne qui est spécialisée dans le sujet traité par le film. Ensuite, nous avons deux panels. Le premier est un panel sur la paix, parce que c'est important d'en parler. Nous avons cette année, pour la première fois, des films sud-soudanais et des réalisatrices sud-soudanaises qui seront là. Des réalisatrices haïtiennes et palestiniennes également. Donc nous aurons un panel qui parlera du cinéma comme forme de résistance dans les pays en conflit.
Adia Fatoussar, 2004-2024, Festival Femmes Afrique a désormais 20 ans. Ce festival, organisé par l'association Trait d'Union, en est à sa 6e édition.
Jusqu'au 4 mai prochain, à Dramé, plusieurs localités du Sénégal vont donc vibrer au rythme des longs et courts métrages. Lors de l'ouverture de la 6e édition du Festival Film Femmes Afrique, Khadija Ngaye, ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture au Sénégal, a affirmé l'engagement gouvernemental à soutenir le cinéma et l'audiovisuel à travers le FOPICA. Devant un public diversifié, Madame Gaye a salué l'importance du Festival Film Femmes Afrique et a souligné les progrès réalisés par le Sénégal dans ce secteur, progrès qui bénéficie d'une reconnaissance mondiale. De plus, elle a mentionné l'urgence de répondre aux défis climatiques en lien avec la paix, thème central de cette édition du festival.
Le 7e art a cette capacité de nous agiter et de nous amener à bouger comme on dit aujourd'hui. Créer un tel élan, voilà à quoi s'attelle le projet pour le Sénégal, de son excellence le président Patrice de Maïdia Kaffrine et du premier ministre Ousmane Sonko. La culture y occupe une place de premier plan, en particulier les industries créatives, source abondante d'emplois et terreau sur lequel s'élèvent les valeurs qui conjuguent nos actions au temps du progrès. Je voudrais donc féliciter les initiatrices, les organisatrices et organisateurs de ce festival Film Femmes Afrique pour la pertinence de leur option et pour les contours qui font du concept une singularité fort remarquable. À cet effet, le festival Film Femmes Afrique, c'est aussi un thème. Cette année, vous conviez à plancher sur le sujet urgence climatique et paix. Dans sa déclinaison, vous pensez aux pays en conflit. Au fond, vous mettez le doigt sur des préoccupations de l'actualité qui concernent toutes les parties du globe et l'avenir de notre planète, l'avenir de l'humanité.
projections, panels et rencontres permettent présentement de réfléchir sur le thème de cette année, urgence climatique et paix, sur les difficultés auxquelles les femmes font face en période de conflit armé. Voici la contribution de l'écrivaine sénégalaise Sorna Benga.
Les femmes vivent un danger permanent dans les conflits. Si on reprenait des termes qui étaient liés aux grandes guerres, on parlerait de chair à canon, entre guillemets. Quand on regarde des conflits comme le Rwanda, des familles ont été éparpillées, des familles ont été détruites, tout simplement parce qu'une communauté disait de l'autre qu'elle n'était rien. Nous devons apprendre aussi à pousser ces communautés à s'engager, parce que la voie citoyenne est la voie de la libération, nous l'avons vu dans le film. Nous devons également, et c'est très important, nous pardonner. D'abord, avant de pardonner à d'autres. Quand j'ai regardé la partie du film avec Julia et Mona, ce chemin du pardon, on pense qu'il suffit juste de dire « je vous pardonne » pour que ça passe. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et je pense que nous avons tous un rôle à jouer dans ce processus, parce que la paix est un processus. J'ai par moments l'impression que les personnes ne connaissent pas la vraie valeur de la paix. Quand j'arrive au Sénégal et que je sens toute cette douceur alentour, cette paix qu'on retrouve dans les gestes, cette paix entre des personnes de couleurs différentes, on est là. On ne se pose jamais la question de savoir si on est blanc ou noir, si on est Peul, Serer, Djola, si on est catholique ou musulman. Que cette paix soit durable.
Le festival Film Femmes Afrique a démarré avec la projection de Goodbye Julia, un film du réalisateur Mohamed Kordofani qui explore les divisions sociales et religieuses au Soudan, récemment présenté à Cannes. Cette œuvre souligne les tensions intercommunautaires et offre un regard poignant sur les conflits soudanais. Sur ce, à Dramé, je vous dis au revoir.
Merci à vous, Adia Fatoussar. Merci également à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de cette émission. Mille merci également aux techniciens Oumar Ba, logistique Ousmane Diouf, coordination Elisabeth Agnès-Sar, Demba Malik Bodj et Ibrahim Ossadi. Fidèles auditeurs, merci de nous avoir écoutés.
Sénégalaise, Sénégalais.
Mes chers compatriotes.
Cher Dieu Sénégal.
Toute ma vie, j'ai été animé par la nécessité de construire, de consolider l'état de droit.
Sénégal, Sénégal, votre émission qui vous parle de tout.
Il y a des cimetières, des inconnus, des familles qui sont obligées de faire des deuils sans corps.
Le cancer du col est le premier cancer au Sénégal.
Pas de sujet tabou, tout tourne autour de vous. Sénégal, Sénégal, sur la radio de tout le Sénégal et sur toutes nos plateformes digitales.
Salade gueule! Rec! Rec!